Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, mais surtout bonne journée internationale des personnes handicapées. Marianne Paquette pour vous accompagner au cours de ces 30 prochaines minutes avec Jean-Sébastien Laliberté en régie. On a eu envie de mettre en lumière pendant cette émission de C'est bon pour la santé le rôle, les besoins des proches aidants, des partenaires qui, vous le savez, ou du moins vous vous en doutez, sont extrêmement précieux, essentiels pour les personnes en situation de handicap. Ils jonglent avec des réalités pas toujours évidentes, avec de grands, grands défis et des contextes, parfois on ne le soupçonne pas, mais particuliers, délicats. À ma façon, j'ai eu envie de dresser un portrait de ces gens-là pour mieux les connaître et peut-être, en fait, mon souhait à quelque part, c'est de mieux faire rayonner leur apport dans notre société. En deuxième partie d'émission, Françoise Cyr, grand-maman et proche aidante de son petit-fils Frédéric, et Juliane Boudreau, elle, responsable des communications de la Fondation Le Pilier. Mais d'abord, France Boisclair, directrice générale de l'Association Lavalloise des personnes aidantes. France Boisclair, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui.
Bonne journée internationale des personnes handicapées.
Oui.
Vous vous trouvez à la Bibliothèque multiculturelle de Laval où se tient toute la journée des conférences sur les rôles et besoins des proches de personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle. C'est organisé par le regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. Et en première partie d'émission, l'organisme dont vous êtes la directrice générale participait à cette journée de conférence-là. France Boisclair, j'ai envie de vous demander, vous qui connaissez très, très bien ce milieu-là, quel est le profil des proches aidants que vous recevez, notamment à l'Association Lavalloise des personnes aidantes?
Nous, à l'Association Lavalloise, présentement, notre profil, c'est surtout des femmes, naturellement, car le rôle de proche aidant est beaucoup plus... comment dire, pas nécessairement plus vécu par les femmes, mais où les femmes y consacrent plus de temps par rapport aux hommes, parce qu'au niveau des statistiques, ça commence à se ressembler. Là, on dépasse encore les hommes dans ces stats-là, mais c'est pas nécessairement quelque chose de gratifiant. Mais la différence est vraiment le nombre d'heures de soins qu'on donne. Les femmes donnent beaucoup plus d'heures de soins à la personne qu'ils ont pris en charge et qui s'occupe. C'est beaucoup ça la différence. C'est sûr que nous, à notre association présentement, comme mes subventions sont beaucoup axées sur les aidants d'aînés, ma clientèle est beaucoup plus âgée. Mais on a des aidants de toutes sortes et de plus en plus, on a les enfants, c'est-à-dire les fils et les filles des personnes rendues à 85, 90 ans qui voient la mère ou le père s'épuiser à prendre soin de l'autre, qui recherchent des endroits, en fin de compte, pour pouvoir amener à avoir du répit pour leur père ou leur mère.
Mm-hmm. Avez-vous l'impression que parfois, les proches aidants des personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle sont un petit peu mis de l'écart, là, parce que, bon, vous parliez des demandes de subventions, on le sait, là, c'est un cheval de bataille, un peu mis de côté au profit des proches aidants des personnes âgées.
C'est sûr que c'est plus difficile Déjà, c'est difficile pour un aidant de se reconnaître comme un aidant.
Oui.
Souvent, par le temps qu'il se reconnaît comme un aidant, il est rendu épuisé, puis au bout du rouleau. Chez les personnes plus jeunes où ils sont avec un enfant handicapé, qui ont pris soin, un enfant avec une déficience intellectuelle, un enfant trisomique, ces choses-là, ces parents-là, souvent, se sont plutôt considérés comme le parent d'un enfant avec une trisomie, le parent d'un enfant avec une paralysie cérébrale. Donc, le chemin pour qu'ils se reconnaissent comme un aidant est long à remonter. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de difficultés à ce que parents se considèrent comme un aidant.
Oui.
Et c'est là que, de ce côté-là, c'est très difficile. Si le parent lui-même ne se voit pas comme un aidant, c'est beaucoup plus difficile pour nous comme organisme d'aller chercher des sous pour ces parents-là.
Oui, parce qu'ils ne viennent pas vers vous pour demander de l'aide.
Non, ils vont aller vers un organisme qui traite de l'handicap de l'enfant. Et là, à ce moment-là, les services sont beaucoup axés sur la personne avec le handicap.
Oui.
Et non pas pour soutenir l'aidant dans sa démarche. Et c'est là que nous, notre organisme, on est vraiment là pour amener le soutien psychologique, puis amener un endroit pour que l'aidant puisse ventiler ses émotions, reconnaître ses émotions, avoir un endroit aussi pour se faire dire c'est correct, qu'est-ce que tu vis, c'est normal, qu'est-ce que tu vis, considérant où ce que tu es. Puis c'est ce bout-là, des fois, que c'est très difficile pour l'aidant de reconnaître qu'il a le droit de se sentir culpabilisé, il a le droit de se sentir fatigué, il a le droit de se sentir qu'il est débordé. Puis nous, notre association est un endroit où ils peuvent venir le dire, puis on va l'écouter, puis on va l'accompagner là-dedans, puis on va l'aider à essayer d'aller chercher, en fin de compte, une énergie pour pouvoir continuer. Parce que s'il ne prend pas soin de lui, il ne pourra pas continuer à prendre soin de l'autre. C'est toujours comme souvent, on va souvent faire le parallèle avec quand il y a une chose d'urgence dans les avions, ils vont toujours dire que le parent mette son masque d'oxygène en premier, puis après à son enfant, parce qu'après ça, il va pouvoir prendre soin de l'enfant. Oui. Ça, c'est la même démarche au niveau de l'aidant. Si l'aidant prend jamais soin de lui à travers toutes ses démarches, il va être épuisé. Puis, pour nous, à notre association, on a quand même beaucoup d'aidants là, qui prennent soin de des personnes de 85, 86 ans, mais c'est pas rare que l'aidant meure avant l'aidé.
Oh.
Et ça, c'est regrettable, parce qu'il s'est épuisé à la tâche.
Oui. France Boisclair, tous les questionnements que vous venez de soulever, vous les connaissez parce que vous êtes vous-même une proche aidante. Vous avez un grand garçon de 21 ans, Alexandre. Vous, cette énergie-là, pour continuer, vous l'avez trouvée où?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te dirais que c'est sûr que, comme n'importe qui, il y a des hauts et des bas. C'est sûr que, je te dirais, c'est un peu dans la manière de voir les choses. À la longue, je dirais que c'est sûr qu'on se dit qu'il y a toujours du positif dans toute chose.
Ouais.
C'est plus une question de manière de voir la vie et d'évoluer qui fait que, à travers le fait que j'ai un garçon qui est multi-handicapé, qui est complètement, entièrement dépendant de nous, que nous, on le garde à la maison, c'est des décisions familiales, c'est des décisions qui se prennent.
De couple, hein, aussi?
Oui, c'est ça. C'est des décisions de couple qui se prennent avec tout le pour et le contre de qu'est-ce qui est le mieux puis est-ce qu'il n'est pas le mieux. Et comme souvent, mon mari a dit, quand on a su que notre enfant était handicapé, mais il n'y en a pas un des deux qui a blâmé l'autre.
Oui.
Mm-hmm. On s'est dit, on va avancer puis on va voir ce qu'on peut faire avec puis comment qu'on va évoluer là-dedans. Donc, c'est sûr que ça demande, tout ça est dans l'acceptation d'avoir, pas l'acceptation comme telle, mais le fait de passer, puis de dire, OK, si je vis avec, vers quoi je m'en vais, puis qu'est-ce que je peux faire pour me faciliter la vie. Puis, c'est sûr que comme aidant, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, puis d'aller voir qu'est-ce qui peut exister. Puis c'est sûr que dans n'importe quel développement de deuil ou parce que c'est un deuil qu'une personne vit quand elle apprend que la personne avec qui elle vit ou son enfant a un handicap, ben elle vive un deuil de toutes les attentes puis de tous les plans, les rêves qu'elle avait fait pour cette personne-là. Donc c'est vraiment soit que tu bouges plus. Ou bien non, que tu avances. Puis je te dirais, dans ces cas-là, il faut avancer. C'est pas un deuil qu'on peut vivre à notre rythme. C'est un deuil qui demande d'être vécu quand même assez rapidement pour le bien-être de la personne de qui on prend soin. Parce que si c'est un deuil qu'on vit trop lentement, on se trouve à hypothéquer un peu les aides qu'on pourrait aller chercher pour justement pouvoir pallier. Fait que c'est vraiment qu'il faut essayer d'aller chercher dès le départ qu'on a une épreuve de ce genre-là qui nous arrive, essayer d'aller chercher tout ce qu'on peut avoir, puis être capable d'avoir le plan de savoir de tout ce qui qui est accessible et que si j'en ai besoin, je sais que c'est là. C'est vraiment le message, moi, que j'enverrais à n'importe quel parent ou n'importe qui devient aidant. C'est vraiment de dire, là, je veux savoir tout ce qui existe qui va m'aider. Là, je veux que vous me le disiez, je sais que vous savez, puis poser des questions, puis insister. Le système de santé, les gens dans les C3S sont capables de vous donner des informations, puis c'est vraiment le message, moi, que je dirais, là, insister pour avoir toutes les informations que vous allez avoir besoin pour passer à travers cette épreuve-là.
Oui, vous parliez d'hypothéquer quand on prend un petit peu trop de temps à vivre notre deuil, et on peut hypothéquer dans ces cas-là aussi les autres membres de la famille. Vous êtes également maman d'une jeune fille de 16 ans. Comment vous l'impliquez également dans ces rôles-là? Est-ce qu'elle a, elle aussi, à quelque part, un rôle de proche aidant auprès de son grand frère?
Indirectement, parce que ça, tantôt, justement, j'étais en discussion avec quelqu'un pendant l'heure du dîner, puis c'est ça que je disais. À partir du moment qu'il y a une personne avec une perte d'autonomie dans une famille, mais veut pas, tous les gens autour deviennent proches aidants à plus ou moins important niveau. Que ce soit de remplacer quelqu'un pour aller faire une commission, que ce soit comme là, maintenant, ma fille, je vais lui demander, tu sais, je vais aller à l'épicerie une heure, fait que surveille ton frère pendant que je suis partie, s'il y a quelque chose, tu m'appelles sur le téléphone, puis, tu sais, elle a 16 ans, mais elle s'occupe de son frère qui en a 21, là.
Oui,
fait que
ben
c'est,
oui.
C'est quand même... c'est sûr que... là, maintenant, je peux lui demander, quand elle était plus jeune, je pouvais pas lui demander ça, sauf que c'est sûr que oui, veut pas, on va les intégrer, mais c'est sûr qu'on a toujours fait attention qu'elle voit pas son frère comme
un
frein à ses activités, puis que on a toujours fait attention, moi et mon mari, parce que ça fait quand même 26 ans, nous, qu'on est mariés, et on a toujours fait attention à ce que on ait des activités avec elle, avec lui et tout le monde ensemble.
Ça fait 26 ans que vous êtes mariée, France Boisclair. J'en parlais tout à l'heure avec Juliane Boudreau, qui sera présente en deuxième partie d'émission. Mm-hmm. Elle, qui est de la Fondation Le Pilier, et elle me disait que les statistiques par rapport aux couples qui restent ensemble suite à un handicap de l'enfant sont plutôt minces, par exemple. Donc, vous êtes peut-être l'exception qui confirme la règle.
Probablement.
Oui.
Mais c'est sûr que je vous dirais, une épreuve d'un enfant handicapé qui arrive dans un couple, si le couple était déjà, avait la moindre une petite difficulté, disons que c'est un choc, c'est sûr que ça va dérailler. Là. Mm-hmm. Je vous dirais que c'est pour ça que les statistiques sont si fortes. Et naturellement, mais c'est souvent la femme qui se ramasse avec la garde de l'enfant.
Oui.
Souvent, c'est le père qui va partir et c'est la femme qui est en monoparentale et c'est la femme qui va assumer le rôle et par le fait même qui va avoir moins d'argent, va moins travailler, souvent va être sur l'assistance sociale, n'aura pas de régime de retraite à la fin. Donc, on vit un appauvrissement aussi de ce côté-là. Et comme on disait tantôt, c'est sûr qu'au niveau des statistiques, des gens qui prennent soin des autres, bien, c'est beaucoup plus les femmes. Fait que c'est beaucoup plus les femmes qui vont s'appauvrir ou qui vont sacrifier une promotion, sacrifier de l'avancement, qui vont faire moins d'heures, qui vont faire plus des emplois à temps partiel. Donc, il y a tout ça aussi que la société a à juger puis à s'ajuster à toute cette réalité-là.
Parce que, et vous le vivez maintenant que vous êtes directrice générale de l'Association lavalloise des personnes aidantes, la conciliation travail-famille, c'est pas chose évidente.
Oh non! Non, parce que là, c'est comme, c'est ça, c'est de trouver les bonnes ressources pour être là. Comme moi, mon garçon, là, tantôt à 3h05 maximum, faut que je parte parce qu'à 3h30, il va être arrivé à la maison. Donc, là, j'ai pas personne le lundi, mardi, mercredi pour l'accueillir à la maison. Donc, il faut que je termine plus tôt.
Oui.
Et là, j'ai trouvé quelqu'un le jeudi, vendredi. Naturellement, la personne que j'ai trouvée est étudiante. Donc, mon horaire change avec la session d'hiver.
Donc, c'est un casse-tête, hein?
C'est ça. Fait qu'il faut penser à tout ça, penser les journées pédago. passer les journées de relâche quand il travaille, quand il va à l'école. Là, c'est à partir de l'an prochain, mais là, ça va être de trouver les activités de jour où je peux l'envoyer, céduler le transport adapté en conséquence, voir qui va pouvoir être à la maison. Est-ce que je peux l'envoyer à deux endroits d'activités de jour? Est-ce que je peux coordonner tout le transport adapté? Donc, ça va être un autre casse-tête. Comme on dit souvent, devenir proche aidant, souvent, ça développe...
Le sens de l'organisation.
Oui, et beaucoup, ben c'est ça, on devient comme une PME, une mini-PME par nous autres-mêmes, parce qu'il faut céduler les répits gardiennage, aller chercher les subventions, remplir les formulaires, demander la vignette pour le transport, pour les places d'handicapés. Tout ça demande, puis garder aussi niaiseux, là, le gouvernement pourrait sûrement nous faciliter des choses, comme si vous prenez à la régie des rentes, à tous les 5 ans, ils nous font remplir un formulaire pour voir si la personne, tout d'un coup, a été guérie par le Saint-Esprit. Fait que là, à ce moment-là, il faut aller prendre le rendez-vous avec le médecin, avec l'ergothérapeute, le psychologue, pour remplir le formulaire, pour pouvoir le retourner, pour pouvoir continuer d'avoir droit aux prestations, puis... Donc, il y a tout ça des fois que même le gouvernement nous facilite pas la vie. C'est ça. Là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer au fur et à mesure. Puis il faut pas perdre le fil. Puis dans tout ça, mais il y a la vie quotidienne.
Il y a les autres également, il y a ça. Soi-même.
Oui.
Est-ce que ça s'apprend, France Boisclair? Je m'adresse aux parents qui peut-être n'ont pas toutes vos années d'expérience. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites maintenant différemment parce que ça fait 21 ans que vous êtes proche aidante? Est-ce que ça s'apprend à être proche aidant?
Ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas, ça se vit.
Ouais.
Ça se vit au quotidien. C'est sûr qu'il y a des choses qui deviennent plus faciles. C'est sûr que quand la personne n'a pas, je vous dirais, de maladie X, Y, Z, qui en plus, comme moi, je me rappelle un temps, Alexandre fait de l'épilepsie et il était moins bien contrôlé. Donc, c'est sûr que toute l'inquiétude de faire, vas-tu faire une crise d'épilepsie, on va-tu se ramasser à l'hôpital, tout ça, ça, c'est des inquiétudes que quand la personne qu'on prend soin est malade, en plus d'avoir le handicap, parce que c'est un état, avoir une paralysie cérébrale, ça ne veut pas dire que tu es malade tout le temps, mais si en plus, des fois, tu vas avoir plus de problématiques de maladie, de pneumonie et de tout ça amène beaucoup d'inquiétudes que le stress, à un moment donné, devient très élevé, puis il faut prendre beaucoup de recul, et c'est là que je dis qu'il faut prendre le temps d'aller chercher toute l'aide qu'on peut au début pour être capable de, à un moment donné, dire « OK, là, il faut que je me repose.
Mm-hmm. »
Parce qu'il faut le prendre, ce temps-là, parce que sinon, on s'épuise beaucoup. Puis, plus on s'épuise, plus c'est difficile de revenir par la suite.
Oui.
Mais c'est important, comme moi, je vous disais que ça fait 26 ans qu'on est mariés, c'est important de prendre du temps aussi pour nous autres.
Oui. France Boisclair, en terminant, quels seraient vos souhaits pour améliorer à moyen ou court terme le rôle des proches aidants?
Je vous dirais que la société reconnaisse la part des proches aidants dans la société et que ça ne soit pas vu, parce qu'on en parlait encore aujourd'hui à travers les conférences, les gens, quand c'est pour prendre soin de sa mère, son père, ça commence à passer de dire « je dois m'absenter du travail parce que je vais à un rendez-vous avec ma mère ou mon père ». Mais quand c'est « je vais à un rendez-vous avec ma fille de 40 ans ou mon fils de 20 ans parce que je suis proche aidante », ça passe moins bien.
Oui.
Il faut vraiment que les proches aidants n'aient pas peur de dire qu'ils sont des proches aidants. Parce qu'on dit, en fin de compte, qu'il y a 1 million de proches aidants au Québec. Fait qu'il faudrait quand même que ces gens-là se nomment comme tels aussi.
Oui. Et que nous, on arrive à les reconnaître. France Boisclair, directrice générale de l'Association lavalloise des personnes aidantes, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. www.aldpa.org pour aller voyager sur votre site web. Bon restant de Journée internationale des personnes handicapées.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonjour.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220 et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Juliane Boudreau.
Bonjour.
Vous êtes responsable des communications à la Fondation Le Répit, une maison qui héberge les personnes handicapées. Et au bout du fil, à Laval, il y a Françoise Cyr. Bonjour. Bonjour Madame Cyr.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous êtes grand-maman, proche aidante de votre petit-fils Frédéric.
C'est ça.
Je voulais débuter l'entrevue en spécifiant qu'en ce moment, Marc-Antoine Fraël, qui est le responsable du Répit du côté de la Fondation Le Pilier, présentement en conférence. Je vous rappelle ces conférences qui sont organisées, qui ont lieu là, toute la journée à la Bibliothèque multiculturelle de Laval. Et ça parle des exemples d'initiatives des Répits proposées par les organismes qui sont membres du regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. Madame Cyr, Marc-Antoine, c'est l'intervenant de votre petit-fils Frédéric. Et vous me disiez que l'apport de Marc-Antoine dans la vie de votre petit-fils est très importante. Qu'est-ce que ça lui apporte, ce contact-là?
Bien, d'abord, Marc-Antoine est très proche de tous les enfants avec qui il travaille. Puis Frédéric n'a pas beaucoup de personnes masculines autour de lui. Donc, avec Marc-Antoine, on dirait que ça remplace un peu le manque qu'il a dans sa vie, là. Mm. Puis, c'est ça. Fait que c'est devenu une deuxième famille, la maison Le Pilier, pour le petit. Et quasiment même pour moi aussi, là. Même si moi, je fais pas de séjour là, mais on a vraiment un bon contact avec tous les gens surtout avec Marc-Antoine, parce qu'il est vraiment, à sa place, si je puis dire.
Juliane, bon, c'est l'un des services de la Fondation Le Pilier, le Répit, mais il y en a d'autres. Quels sont-ils?
Oui, c'est ça. En fait, la Fondation Le Pilier a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Donc, on offre le service de répit au Centre Marcel et Jean Coutu. On offre à ce centre également le service d'activité adaptée, puis d'hébergement en alternance motisme jeunesse. Et nous avons également une dizaine de maisons pour des personnes handicapées à travers le Grand Montréal, donc Montréal, Laval, Blainville.
Madame Cyr, vous dites, bon, moi, je la fréquente pas, cette maison-là, c'est mon petit-fils qui y va, mais vous avez votre quotidien, votre réalité à vous aussi. À quelles difficultés vous êtes confrontée au quotidien dans votre rôle de proche aidante?
Bien, c'est que je vous parlais avec Frédéric.
Oui.
Ben d'abord, je dois dire que Frédéric, c'est un enfant très dynamique. Mais on doit être présent avec lui à tous les jours là, quand il faut vraiment être présente avec lui. Mais c'est sûr que c'est pas toujours reposant.
Oui.
c'est pas toujours reposant, mais on s'amuse beaucoup avec Frédéric. Il est très souriant. Il a des fous rires. On a des fous rires ensemble, tout ça. Mais il y a aussi des fois ses petites colères. Il fait des petites colères. Puis des fois, moi, je suis seule pour m'en occuper, Frédéric. Hein. Oui. J'ai pas personne autour de moi, sauf tous les intervenants là qu'il y a là. Mais dans ma famille, il y a pas beaucoup de gens qui m'aident là-dedans. Alors, c'est ça. Fait que c'est ça qui est la difficulté là en ce moment. C'est l'aide dont j'ai besoin que la maison, le pilier me procure. Là.
Oui.
À chaque fois qu'il s'en va là-bas, ben je suis à l'aise. J'ai pas de crainte parce qu'ils connaissent beaucoup Frédéric. Puis ils sont très responsables. Puis moi, ben ça m'aide beaucoup à reprendre mon souffle, si je peux dire.
Oui, parce que c'est important. Juliane, au sein même de la Fondation Le Pilier, il y a, j'imagine, toutes sortes de profils. Françoise Cyr est un profil particulier parce qu'elle est grand-maman. On ne s'imagine pas nécessairement d'entrée de jeu qu'une grand-maman peut être proche aidante de son petit-fils. Quels sont les autres types de profils que vous rencontrez?
Bien, en fait, c'est soit des parents qui sont en couple ou soit des mères monoparentales ou des personnes comme Mme Cyr. Mais en fait, c'est les proches de personnes handicapées qui ont soit un handicap physique ou une déficience intellectuelle. Mm-hmm. Puis, par exemple, au RIPI, on a plus de 60% des personnes handicapées qui vont venir au RIPI. Plus de 60% sont semi-autonomes ou non-autonomes. Mm-hmm. Puis, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a remarqué que 8 couples sur 10 sont séparés parce que c'est sûr que c'est un travail à temps plein être proche d'une personne handicapée. Oui. Ça crée des tensions dans le couple. La vie, c'est ça. C'est un travail à temps plein.
Oui. Et vous le dites bien, Mme Cyr, les proches ne sont pas nécessairement présents autour de vous. Qu'est-ce que vous faites quand Frédéric est à la maison Le Pilier, à la Fondation Le Pilier? Qu'est-ce que vous faites pour vous reposer, pour décrocher?
Bien, en fait, moi, j'ai un travail aussi, fait que souvent, je vais travailler plus facilement. Disons, je suis travailleuse autonome, donc je peux faire mes horaires. Fait que des fois, ça va être pour ça. Sinon, autrement, bien, je peux peut-être faire du cinéma. Je fais des sorties avec une associée. J'ai pas beaucoup d'amis parce qu'on dirait que ça s'est libéré autour de moi avec l'avenue de ma fille quand elle vivait, puis mon petit-fils, là, ça change une vie. Mm. Mais j'avoue que j'ai un peu de difficulté à m'occuper de moi. Là, je commence à faire ça beaucoup, là. Parce que Frédéric prend une grande place dans ma vie.
Le temps file vraiment à vive allure. Donc, en terminant, je veux vous demander, Mme Cyr, c'est quoi vos souhaits pour l'avenir?
Pour l'avenir, moi, je voudrais que Frédéric continue d'évoluer parce qu'il évolue beaucoup, beaucoup en ce moment. C'est incroyable de le voir aller, là. Faut dire qu'il y a 2-3 ans, il parlait, mais c'était pas, moi, je pouvais le comprendre. C'est pas tout le monde qui le comprenait. Mais là, il parle beaucoup. Mm-hmm. Il fait des belles phrases. On peut discuter avec lui. Puis même, il sort il va sortir des mots, des phrases qu'on a dit avant, tu sais, quand tu étais tout jeune, puis on dirait que là, ça sort.
Ça revient.
Ça revient. Fait que moi, je veux une place pour Frédéric. Je veux qu'il ait sa place à lui. Ce que je trouve qu'à l'école, il n'a pas en ce moment.
On le souhaite, Mme Françoise Cyr, et on le salue. Saluez-le de notre part, votre beau Frédéric. Merci beaucoup de votre intervention à l'émission aujourd'hui. Juliane Boudreau de la Fondation Le Pilier, merci également. On voit que votre travail est souligné et important. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup à Jean-Sébastien. Je vous souhaite à tous une journée internationale, une bonne journée internationale des personnes handicapées. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse et vous donne rendez-vous à demain.